clic, les dessins peuvent être vus à l'autre bout de la planète. Mais, c'est là où est la quadrature du cercle, sur 7 milliards d'habitants, je vais forcément en choquer un. Donc si je commence à me dire je veux choquer personne au Moyen-Orient, au Japon ou en Argentine, je ne vais pas y arriver. Donc c'est là que se trouve la différence, c'est un des avatars de la mondialisation. Il y a des très bonnes choses dans la mondialisation, mais il y a des dommages collatéraux et on n'a pas encore trouvé la réponse.
Vous avez dit dans une interview que votre rapport au dessin et au rapport au métier avait changé aussi depuis les attentats de Charlie Hebdo. Vous êtes vice-président de Cartooning for Peace. On va évoquer tout cela, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Après, Antoine Hainaut, La vie, c'est cool.
La première, entrée sans frapper.
Nicolas Vado, 7 ans de bonheur ou presque, la crise illustrée, c'est donc le titre de cet ouvrage. On évoquait juste avant d'écouter Antoine Hainaut, on évoquait les attentats de Charlie Hebdo. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé durant cette semaine. À chaque fois qu'on reçoit, que ce soit un caricaturiste ou un dessinateur de presse ou un dessinateur politique, comme vous, on pose la question. Vous avez été un moment, après les attentats, dans des écoles. Et vous avez été frappé aussi par les réactions de certains jeunes qui disaient mais ils ont caricaturé le prophète, ils ont quelque part, ils nous ont tellement touchés qu'ils méritent bien ça. Ça, c'est terrible quand même d'entendre ça dans des écoles ici en Belgique ou en France, de la part de Belges. Il faut rappeler que ce sont des Belges qui disent ça.
J'y suis allé après les attentats, j'y suis encore allé il y a 4 jours et j'y retourne en janvier parce que le travail est loin d'être terminé. C'est vrai que c'est assez étonnant d'entendre ça. C'est pour ça que je leur disais, vous avez le droit de ne pas être Charlie. Et vous avez le devoir de le dire, sans vous taper dessus. Une fois que vous avez dit ça, déjà, vous avez fait tomber des barrières. Parce que ce sont des jeunes qui ont l'impression de ne pas être écoutés. Et pour que des jeunes élevés en Belgique en arrivent à dire que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes, ça veut dire qu'on a échoué quelque part. Et donc c'est à nous tous de réfléchir par rapport à ça. Mais j'étais très content de faire ces rencontres dans les écoles parce que je leur montrais les choses de manière frontale. Je leur montrais des dessins de Luz, de T-News, des gens comme ça. Je leur expliquais ce qu'était le droit au blasphème. Je leur disais de manière faussement provocatrice, si Mahomet s'estime diffamé, il pourrait porter plainte. Et je disais des choses comme ça et toujours en ayant en tête le respect. C'est-à-dire que ils ont le droit de croire en Dieu. Mais ils n'ont pas le droit de tuer les autres parce qu'ils ne pensent pas comme eux. C'est la différence entre un laïc et un fondamentaliste. C'est que le laïc n'interdira jamais au fondamentaliste de croire en Dieu. C'est la grande différence. Et donc avec des jeunes, on essaie de leur expliquer ça et par le dessin, parce que comme je vous disais, le dessin passe outre les barrières du monde adulte.
Et est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous avez l'impression qu'après avoir rencontré ces jeunes, ils ont un état d'esprit un peu différent ?
Ça, je peux pas vous le dire. Ce serait très prétentieux de me dire, de vous dire que ça fonctionne.
En revanche, vous avez des réactions.
Des réactions, j'en avais. Et dans une classe, en général, il y en a que un ou deux qui posent toutes les questions. Les autres se taisent, ils osent pas trop. Et puis, je peux vous dire qu'au début, parfois, dans certaines écoles, ils pouvaient être très hostiles. Et puis, à la fin, ils faisaient des selfies. Donc, on arrivait. Je me suis vraiment rendu compte que ce qu'ils attendaient d'abord, c'est qu'on les écoute. Et ils avaient l'impression d'être dans une pensée unique. C'est-à-dire qu'ils devaient être Charlie Hebdo. Et eux, ils ne pouvaient pas être Charlie Hebdo parce qu'ils estimaient que Charlie Hebdo faisait une offense à leur religion. Ce qui est faux, évidemment. Charlie Hebdo est outrancier. Charlie Hebdo est un journal d'extrême gauche. Moi, je ne suis pas d'accord avec plein de trucs de Charlie Hebdo. Mais Charlie Hebdo n'est absolument pas un journal islamophobe. Et dire que les dessins de Charlie Hebdo sont dangereux, c'est faux.
Mais vous pouvez comprendre, vous dites que ce n'est pas islamophobe. Quand on a un dessin où on voit le prophète se faire sodomiser par Jésus, on peut comprendre quand même que pour ceux qui croient dans les religions, ils soient terriblement touchés, meurtris peut-être dans leur chair en voyant ce genre de
dessin. Mais ils peuvent être meurtris, touchés dans leur chair. Je veux dire, moi qui suis complètement athée, quand je vois un dessin de Jésus se faire sodomiser par Mahomet ou Yahvé ou je ne sais plus, moi je suis choqué aussi. Pourtant je suis complètement athée. Et je suis complètement laïque parce que je trouve que c'est un dessin crétin. Parce que c'est un dessin qui ne va servir à rien, qui ne va que prêcher à des convertis dans un sens ou dans l'autre. Donc moi, ce sont des dessins que je ne ferais pas parce que ça ne servirait, j'estime, à rien. Mais c'est leur droit de le faire parce que ça s'appelle la liberté d'expression à partir du moment où on ne contrevient pas à la loi. La liberté d'expression, il faut quand même le rappeler, n'est pas totale, loin s'en faut. Elle est cadré par la loi. Vous n'avez pas le droit d'insulter ou de diffamer quelqu'un. Dans ce cas, vous pouvez être poursuivi. Là, il s'agit il s'agit d'entité, on va dire, religieuse. Ça n'est pas la même chose. Donc, on peut être choqué. Et on a le droit d'être choqué. Je dis, moi, je suis souvent choqué par des dessins de Charlie Hebdo, mais c'est leur droit de le faire. Et donc, c'est ça, la liberté, le vivre ensemble et la démocratie.
En quoi est-ce que votre rapport au dessin, à votre travail, a changé depuis les attentats, mais aussi avec tout ce qui s'est passé durant cette année 2015?
Il a changé parce que, d'abord, nous étions des observateurs de l'actualité. Tout à coup, on est devenus des acteurs, voire même des cibles. Alors, nous, en Belgique, on n'a pas été ciblés. Mais quand j'ai appris ce qui s'est passé le 7 janvier, il y avait des gens, il y en avait un que je connaissais, c'était Tinius, parce qu'il était membre de Cartooning for Peace. Tinius, c'était un type adorable. Et jamais j'aurais pensé qu'il puisse se faire assassiner pour des dessins. Donc, quand des dessinateurs se font assassiner, nous sommes dessinateurs de presse, nous travaillons sur l'actualité en permanence, on se dit, oui, ça pourrait nous tomber dessus aussi. Donc, l'insouciance dont je parlais tout à l'heure à propos de l'Australie est partie d'une certaine manière. En revanche, là où j'ai commis une erreur de jugement, j'ai pensé que les attentats de Charlie Hebdo étaient une sorte d'aboutissement de la haine. Malheureusement, j'ai peur que ça n'ait été qu'un départ. Donc, quand les attentats du 13 novembre sont arrivés, j'étais horrifié comme tout le monde, mais je n'étais pas surpris. Parce que nous, on vit avec cette angoisse-là depuis le 7 janvier. Mais on vit dans une période extrêmement tumultueuse, extrêmement dangereuse. Et pour être très franc avec vous, je n'ai toujours pas compris qu'on puisse se faire assassiner pour avoir fait des dessins.
Vous êtes vice-président aussi de Cartooning for Peace. On se rappelle peut-être en deux mots ce qu'est Cartooning for Peace.
Cartooning for Peace a été créé par Plantu, dessinateur du Monde, et Kofi Annan en 2006 suite à l'affaire des premières caricatures de Mahomet publiées au Danemark, parce qu'il s'est dit que le dessin avait cette force de traverser les frontières et donc il voulait mettre ensemble des dessinateurs qui pensaient différemment. Ils pouvaient mettre des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, des laïcs, des religieux dans la même pièce pour qu'ils arrivent à se parler. Et ce qui est le plus important en Cartooning for Peace, c'est la petite phrase qui est en dessous, c'est désapprendre l'intolérance. Et l'intolérance, elle commence dans le miroir quand on se regarde le matin, parce que de l'intolérance, il y en a en chacun de nous. C'est ça aussi qui fait la différence entre des gens ouverts et des gens fermés, c'est-à-dire les gens ouverts savent qu'ils ont du bien et du mal au sein d'eux. Il n'y a pas juste le bien eux et le mal ailleurs. Donc Plantu a créé ça en 2006. Ils étaient une douzaine au départ et on est aujourd'hui à peu près 120. La semaine passée, nous étions à Strasbourg pendant 3 jours au Parlement européen. 28 dessinateurs de l'Union, un par pays. Il y avait la remise du prix Sakharov à Raif Badawi. Et on était 28 dessinateurs et c'est passionnant de voir comment d'autres européens notamment, voient le monde.
Et ils le voient quoi? Totalement différemment de vous?
Chacun le voit différemment, mais vous parlez avec un Anglais ou un Irlandais, ou avec un Néerlandais, il va le voir différemment aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se confronter, ce que je disais tout à l'heure, se confronter à des modes de pensée qui ne sont pas les mêmes que le nôtre.
Nicolas Vado, est-ce qu'on a aujourd'hui des lieux pour se confronter, encore du temps pour se confronter et l'envie de se confronter à d'autres pensées?
Je ne sais pas, parce que c'est tout le paradoxe des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on ne vit que pour des likes et on ne se parle plus. Donc le plus important, c'est d'avoir des amis sur Facebook et on en a de moins en moins dans la vraie vie. Donc c'est vrai qu'on est dans une société, paradoxalement, où on peut tout savoir du monde, mais le corollaire de ça, c'est que les gens se regardent le nombril, ce qui est un paradoxe assez énorme.
Quand on est vice-président de Cartooning for Peace et qu'on voit la situation de certains dessinateurs dans d'autres pays, mais qu'est-ce qu'on se dit aussi? On se dit qu'un, on a de la chance de vivre en Europe, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces dessinateurs qui sont certains en prison ou certains qui sont en tout cas sous le poids d'un gouvernement, d'une police, d'une armée qui les surveille, qui les traque?
Ça, c'est une question très complexe. Ce que je peux vous dire, c'est que les dessinateurs qui vivent dans ces pays-là, quand ils voient la liberté que nous avons, ça les regardit pas mal parce que ils se disent que c'est possible. Et nous, inversement, on se dit qu'on a beaucoup de chance. Et c'est aussi ce que j'explique quand je vais dans les écoles aux jeunes, c'est que la démocratie, c'est pas un truc qui est scellé pour toujours. La démocratie, c'est très fragile, ça se construit tous les jours. Nous la construisons tous et elle peut se détruire très très vite. Et elle peut se détruire dans des pays qui sont considérés comme totalement démocratiques. Donc c'est, encore une fois, j'y reviens toujours, se confronter à des gens qui ne pensent pas comme soi, ça ne peut que rendre plus intelligent.
Vous êtes optimiste ou pessimiste ?
Je suis pessimiste de nature, mais je suis d'un professionnellement optimiste, on va dire. Donc voilà,
c'est une bonne réponse.
C'est une réponse de Normand que je vous donne.
On va dire ça. Merci beaucoup, Vado, Nicolas Vado. 7 ans de bonheur, ou presque, c'est donc La crise illustrée, ce recueil de vos dessins publiés depuis 2008. C'est un vrai bonheur que de se replonger dans cet ouvrage, dans cette crise, même si ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir. C'est un vrai bonheur aussi que de vous recevoir ici, dans ce studio de La Première, et d'évoquer votre travail aussi. Merci Nicolas Vado. 9h47, vous êtes toujours dans Entrée sans frapper. C'est un bonheur encore et toujours que de partager ce moment avec vous et d'écouter maintenant John Lennon et Yoko Ono, Happy Christmas. Ben oui.
Merci.